Chapitre 9. Il nous arriva à tous trois, pour des motifs différents, d'avoir des ennuis entre Nuremberg et la Forêt Noire. Harris débuta à Stuttgart en insultant un gardien municipal. Stuttgart est une ville charmante, propre et gaie, autre Dresde, plus petit. Son attrait particulier consiste à offrir peu de choses qui vaillent la peine d'être visitées, mais à l'offrir sans qu'on soit forcé de se déranger de son chemin. Une galerie de tableaux d'importance moyenne, un modeste musée d'antiquité, un demi-palais, avec cela vous avez tout vu et êtes libre d'aller vous distraire autrement. Harris ignorait que c'était un gardien qui l'insultait. Il l'avait pris pour un pompier. Cet homme en avait l'air, et il l'appela « Drummer Esel ». Vous n'avez pas le droit en Allemagne de traiter un gardien municipal d'Anbaté. Mais cet homme en était un, indubitablement. Voici ce qui s'était passé. Harris, trouvant le Stadtgarten et désirant le quitter, franchit une grille qu'il voyait ouverte, enjamba un fil de fer et se trouva dans la rue. Harris prétend ne pas avoir vu un écriteau sur lequel on pouvait lire « Passage interdit », mais il en avait un sans aucun doute. L'homme apposté là arrêta Harris et lui fit remarquer cet écriteau. Harris l'en remercia et poursuivit son chemin. L'homme courut après lui et lui fit comprendre qu'on ne pouvait pas se permettre, en pareille occurrence, tant de désinvolture. Il voulait que Harris reboussât chemin et, en repassant par-dessus le fil de fer, rentra dans le jardin, ce qui arrangerait tout. Harris expliqua à l'homme que l'écriteau défendait de passer et qu'il allait donc, en rentrant dans le jardin, enfreindre une seconde fois la loi. L'homme en convint, et pour résoudre la difficulté, il enjoignit à Harris de rentrer dans le jardin par l'entrée principale, qui se trouvait au tournant du coin, et d'en sortir aussitôt après par la même porte. C'est à ce moment-là que Harris le traita d'Anbaté. Ceci nous fit perdre une journée et coûta à Harris 40 marks. J'eus mon tour à Karlsruhe par suite du vol d'une bicyclette. Je n'avais pas l'intention de voler une bicyclette. Je n'avais que le désir de me rendre utile. Le train était sur le point de partir lorsque j'aperçus dans le fourgon ce que je crus être la bicyclette de Harris. Il n'y avait personne pour m'aider, je sautai dans le wagon et pus tout juste la saisir et la retirer. Je la conduisis triomphalement sur le quai, or là, je me trouvais devant la bicyclette de Harris, appuyée contre le mur derrière quelques boîtes à lait. La bicyclette que j'avais rattrapée n'était pas celle de Harris. La situation était embarrassante. Si j'avais été en Angleterre, je serais allé trouver le chef de gare et lui aurais expliqué mon erreur. Mais en Allemagne, on ne se contente pas de vous voir expliquer une petite affaire de ce genre devant un seul homme. On vous emmène, et vous êtes obligé de donner vos explications à une demi-douzaine d'individus. Et si l'un d'entre eux est absent, ou s'il n'a pas le temps de vous écouter à ce moment-là, on a la fâcheuse habitude de vous garder pendant la nuit, afin que vous puissiez achever vos explications le lendemain. Je pensais donc à mettre l'objet hors de vue, puis aller faire un petit tour sans tambour ni trompette. Je trouvai un hangar en bois qui me sembla l'endroit rêvé, et j'y roulais la bicyclette quand, malheureusement, un employé à casquette rouge, l'air d'un feldmaréchal en retraite, me remarqua, s'approcha et me dit « Que faites-vous de cette bicyclette ? » ?»« Je suis en train de la ranger sous ce hangar. » J'essayais de le persuader par mon ton que j'accomplissais un acte de complaisance pour lequel les employés de chemin de fer devraient de la récompense. Mais il ne se montra pas touché. « Cette bicyclette est à vous ? » ?»« Oh, pas exactement. » »« À qui est-elle ? » demanda-t-il sévère. « Je ne peux pas vous renseigner. » « J'ignore à qui appartient cette bicyclette. »« Mais d'où l'avez-vous ?» fut la question suivante. Sa voix devenait soupçonneuse. « presque insultante. Bah, je l'ai prise dans le train, répondis-je avec autant de calme et de dignité que je le pus dans un moment pareil. Ah, le fait, continuai-je avec franchise, que je me suis trompé. Il me laissa à peine le temps de finir ma phrase. Il dit simplement que cela lui faisait également cet effet et il donna un coup de sifflet. Ce qui se passa ensuite, en tant que cela me concerne, ne me laissa pas de souvenir amusant. Par un miracle de chance, la Providence veille sur certaines personnes, cet incident se passait à Karlsruhe, où je possède un ami allemand, personnage officiel, qui occupe une situation assez importante. J'aime autant ne pas approfondir ce qui se serait produit si cet ami eût été en voyage. Il s'en fallut d'un cheveu que je restasse captif. Mon élargissement est encore aujourd'hui considéré par les autorités allemandes comme une grave faiblesse de la justice. Mais rien n'approche de la formidable turpitude de Georges. L'incident de la bicyclette nous avait tous mis sans dessus-dessous et eut pour résultat de nous faire perdre Georges. On apprit plus tard qu'il nous avait attendus devant le commissariat de police, mais nous ne le sûmes pas au bon moment. Nous pensâmes qu'il avait dû continuer seul sur Baden, et impatients de quitter Karlsruhe, nous sautâmes dans le premier train en partance. Quand Georges, las d'attendre, s'en vint à la station, il s'aperçut de notre départ et du départ de ses bagages. J'étais le caissier du trio, si bien qu'il ne se trouvait en possession que de menues monnaies. Son billet était entre les mains de Harris. Trouvant dans cet ensemble de faits des motifs suffisants d'excuses, Georges entra délibérément dans une série de crimes dont la lecture au procès-verbal officiel nous fit dresser à Harris et à moi les cheveux sur la tête. Voyager en Allemagne, il faut en convenir, est compliqué. Vous commencez par prendre à votre garde au départ un billet pour celle de votre destination. On croirait que cela suffit pour s'y rendre. Il n'en est rien. Quand votre train entre en gare, vous essayez d'y accéder, mais l'employé vous renvoie avec emphase. Où sont les preuves de votre droit? Vous lui présentez votre billet. Il vous explique qu'en soi, ce billet n'a aucune efficacité. Ce n'est qu'un mince préliminaire. Il vous faut retourner au guichet, prendre un supplément de train express appelé Schnellzugbillett. Muni de celui-ci, vous revenez à la charge et croyez en avoir fini. On vous permet de monter dans le train, c'est parfait. Mais il vous est interdit de vous asseoir, comme de rester debout, comme de circuler. Il vous faut prendre un autre billet, nommé Platzticket, qui vous rend titulaire d'une place pour un parcours déterminé. Je me suis souvent demandé ce que ferait celui qui s'obstinerait à ne prendre qu'un seul billet. Aurait-il le droit de courir sur la voie derrière le train? Ou pourrait-il se coller une étiquette comme sur un colis et monter dans le fourgon? Et encore, que ferait-on de celui qui, muni d'un Schnellzugbillett, refuserait avec fermeté ou n'aurait pas les moyens de prendre un Platzticket? Lui permettrait-on de s'étendre dans le filet à bagages ou de s'accrocher à la portière? Mais revenons à Georges. Il avait juste de quoi prendre un billet de troisième classe pour Baden en train omnibus. Pour éluder les questions de l'employé, il attendit que le train démarra pour sauter dedans. C'était le premier chef d'accusation relevé contre lui. Petit A, être monté dans un train en marche. Petit B, malgré la défense formelle d'un employé. Deuxième chef, petit A, avoir voyagé dans un train d'une catégorie supérieure à celle qu'indiquait son billet. Petit B, refus de payer le supplément à réquisition d'un employé. Georges déclara ne pas avoir refusé, mais avoir simplement dit qu'il ne possédait pas l'argent nécessaire. Troisième chef, petit A, avoir voyagé dans une classe supérieure à celle qu'indiquait son billet. Petit B, refus de payer le supplément sur la demande de l'employé. De nouveau, Georges discute l'exactitude du rapport. Il retourna ses poches et offrit à l'homme tout son avoir, à savoir 16 sous en monnaie allemande. Il s'offrit à voyager en troisième, mais il n'y en avait pas. Il s'offrit de passer dans le Bourgogne, mais on ne voulut rien entendre. Quatrième chef, petit A, avoir occupé un siège sans le payer. Petit B, avoir stationné dans les couloirs. Ben, comme on ne lui permettait pas de s'asseoir sans avoir payé, chose qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire, on ne voit pas quelle autre solution il aurait pu adopter. Mais en Allemagne, on ne considère pas les explications comme des excuses. Et son voyage de Karlsruhe à Baden fut peut-être un record par son prix. En pensant à la fréquence et à la facilité avec lesquelles en Allemagne on peut avoir maille à partir avec la police, on est amené à conclure que cette contrée serait le paradis du jeune Anglais. La vie à Londres est d'une monotonie exaspérante, selon ce que disent les étudiants en médecine et les gens en goguette. L'Anglais bien portant prend sa distraction en violant la loi, ou ne s'amuse pas. Rien de ce qui lui est permis ne lui procure de satisfaction véritable. Aller au-devant de quelque ennui, tel est son idéal de félicité. Mais voilà, en Angleterre, on a fort peu d'occasions de ce genre. Le jeune Anglais doit montrer pas mal de persévérance pour se fourrer dans un mauvais cas. Un jour, j'eus une conversation à ce sujet avec le principal marguillier de notre paroisse. C'était le 10 novembre au matin. Tous deux, nous parcourions avec anxiété les faits divers. Une bande de jeunes gens, comme chaque année à cette date, avait été appelée devant le magistrat pour avoir fait dans la nuit précédente l'habituel chahut au Critérium. Mon ami le marguillier a des fils. J'ai un neveu que je surveille paternellement. Sa mère, qui l'adore, le croit entièrement absorbé à Londres par ses études de futur ingénieur. Par extraordinaire, nous ne découvrions aucun nom connu dans la liste des personnes retenues par la justice. Et rassérénés, nous commençâmes à philosopher sur la folie et la dépravation de la jeunesse. Oh, la manière, dit mon ami le marguillier, dont le Critérium conserve son privilège à ce point de vue est remarquable. Rien n'est changé depuis ma jeunesse. Les soirées se terminent invariablement par un chahut au Critérium.
Tellement insipide, remarquai-je.
Oh, tellement monotone. Vous ne pouvez vous figurer, continua-t-il, une expression rêveuse passant sur sa figure ridée, combien finit par être inexprimablement fastidieux. Le parcours de Piccadilly Circus au commissariat de police de Vine Street. Mais hors cela, que pourrions-nous faire? Rien, rien de rien. Éteindre une lanterne? On la rallumait tout de suite. Insulter un policeman? Il n'en tenait pas compte. Vous pouviez vous battre avec un fort de la halle de Covent Garden si vous étiez amateur de ce genre d'amusement. D'une manière générale, le fort sortit vainqueur du combat. En ce cas, cela vous coûtait 5 shillings, mais dans le cas contraire, cela coûtait un demi-sourin. Je n'ai jamais pu me passionner pour ce sport. J'essayais un jour de jouer au cochet de fiacre. C'était considéré comme le nec plus ultra de l'extravagance parmi les jeunes fous de mon âge. Un beau soir, je volais à Hansom Cab devant un marchand de vin dans Dean Street, et la première chose qui m'arriva fut d'être ailé dans Golden Square par une vieille dame flanquée de 3 enfants, parmi lesquels 2 pleuraient, le 3e était à moitié endormi. Avant que j'aie pu m'éloigner, elle avait lancé la marmaille dans la voiture, pris mon numéro, m'avait payé 1 shilling de plus que la taxe, prétendit-elle, et donné comme adresse un point légèrement au-delà de ce qu'elle appelait North Kensington. En réalité, cet endroit se trouvait à l'autre bout de Willesden. Le cheval était fatigué, le voyage prit plus de 2 heures. C'est la distraction la plus ennuyeuse qui me soit échue de ma vie. Je tentai à plusieurs reprises de proposer aux enfants de les ramener chez la vieille dame,
Mais chaque fois que je voulais engager la conversation en levant la trappe, le plus jeune des trois se mettait à brailler, et lorsque je demandais à d'autres cochers de prendre le lot, la plupart d'entre eux me répondaient en me chantant une si populaire, très en vogue à ce moment. « Oh, Georges, ne crois-tu pas que tu vas un peu loin ?» Oh, l'un d'eux m'offrit de porter à ma femme une pensée dernière que j'aurais pu avoir. Tandis qu'un autre promit d'organiser une expédition pour aller m'exhumer au printemps à la fonte des neiges. Quand j'avais conçu ma blague, je me voyais conduisant un vieux colonel grincheux dans un quartier perdu et dépourvu de communication, situé à au moins une demi-douzaine de lieues de l'endroit où il voulait se rendre et l'abandonnant là à jurer devant une borne. Dans ces conditions, j'aurais pu avoir de l'amusement, ou peut-être pas, tout dépendant des circonstances et du colonel. L'idée ne m'était jamais venue d'avoir la responsabilité de toute une nursery d'enfants sans défense, avec la mission de les transporter dans un faubourg perdu. Non, il n'y a pas à dire Londres, conclut mon ami le marguillier avec un soupir. Londres offre de bien peu d'occasion à celui qui aime enfreindre la loi. Bien au contraire, en Allemagne, on arrive à avoir des ennuis avec une facilité surprenante. Il y fourmille de choses très faciles à exécuter qu'il est défendu de faire. Je conseillerais tout simplement un billet d'aller au jeune Anglais qui serait désireux de se fourrer dans un mauvais cas, faute d'en trouver l'occasion chez lui. Prendre un billet aller-retour, qui n'est valable qu'un mois, serait indubitablement du gaspillage. Il trouvera dans la lecture des ordonnances de police du Vaterland tout un ensemble de prescriptions dont l'infraction lui procurerait de la distraction et de la joie. En Allemagne, il est défendu de suspendre sa literie à sa fenêtre. Il pourrait commencer sa journée par là, en secouant ses draps par la fenêtre, où il serait à peu près sûr, avant l'absorption de son premier déjeuner, d'avoir déjà eu une petite discussion avec les agents. En Angleterre, il lui serait loisible de se pendre en personne à sa fenêtre, sans que nul n'y trouvât à redire, pourvu qu'il n'interceptât pas le jour des locataires de l'étage inférieur, ou bien que, se détachant, il n'allât blesser un passant. En Allemagne, il est défendu de se promener en travesti dans les rues. Un Écossais de ma connaissance, qui voulait passer l'hiver à Dresde, consacra les premiers jours de son séjour là-bas en discussion à ce propos avec les autorités saxonnes. Elles lui demandèrent ce qu'il voulait faire dans cet accoutrement. Ce n'était pas un homme commode. Il répondit « Le porter ». Et elles lui demandèrent « Mais pourquoi ?» Il répondit « Pour avoir chaud ?» Elles répliquèrent avec franchise qu'elles ne le croyaient pas et le renvoyèrent chez lui dans un landau fermé. L'ambassadeur d'Angleterre dut attester en personne que nombre de loyaux sujets britanniques, fort respectables d'ailleurs, avaient l'habitude de porter le costume écossais. On fut obligé, vu le caractère diplomatique du témoin, d'accepter ses explications, mais jusqu'à ce jour, les autorités ont réservé leur opinion particulière. Elles ont fini par s'habituer aux touristes anglais, mais un gentilhomme du Leicestershire, invité à chasser avec des officiers allemands, fut appréhendé, lui et son cheval, à la sortie de son hôtel et conduit vivement au poste pour y expliquer son extravagance. Il est également défendu dans les rues allemandes de donner à manger à des chevaux, des mulets ou des ânes, qu'ils soient votre propriété ou celle d'autrui. Si une envie soudaine vous prend de nourrir le cheval d'un autre, il vous faut fixer un rendez-vous à l'animal et le repas aura lieu dans un endroit dûment autorisé. Il est défendu de casser de la porcelaine ou du verre dans la rue ou dans quelque endroit public que ce soit. Et si cela vous arrivait, il vous faudrait en ramasser tous les morceaux. Je ne saurais dire ce qu'il vous faudrait faire de tous les morceaux une fois rassemblés. Tout ce que je peux affirmer, c'est qu'on n'a pas la permission de les jeter ni de les laisser dans un endroit quelconque, ni, paraît-il, de s'en séparer de quelque manière que ce soit. Il est à présumer qu'on sera obligé de les porter sur soi jusqu'à la mort et de se faire enterrer avec. Mais il est fort possible que l'on obtienne autorisation de les avaler. Il est défendu dans les rues allemandes de tirer à l'arbalète. Le législateur germanique ne se contente pas d'envisager les méfaits de l'homme moral. Il se préoccupe de toutes les bizarreries maladives qu'un maniaque halluciné pourrait imaginer. En Allemagne, il n'existe pas de loi contre l'homme qui marcherait sur la tête au beau milieu de la rue. L'idée ne leur en est pas venue. Un de ces jours, un homme d'État allemand, voyant des acrobates au cirque, s'avisera soudain de cette omission. Aussi, il se mettra au travail et accouchera d'une loi qui aura pour but d'empêcher les gens de marcher sur la tête au beau milieu de la rue et qui fixera le montant de l'amende. C'est en cela que réside le charme de la loi germanique. Les méfaits en Allemagne sont à prix fixe. Vous n'y passez pas des nuits sans sommeil, comme vous faites en Angleterre, à réfléchir sur la possibilité de vous en tirer avec une caution ou une amende de 40 shillings ou avec un emprisonnement de 7 jours selon l'humeur du juge. Vous savez exactement à combien vous reviendra votre plaisanterie. Vous pouvez étaler votre argent sur la table, ouvrir votre code et calculer le coût de vos vacances à 50 pfennigs près. Pour passer une soirée peu coûteuse, je recommanderais de se promener sur le côté interdit du trottoir après avoir été sommé de ne pas le faire. En choisissant votre quartier et en vous tenant aux rues peu fréquentées, vous pourrez, d'après mon calcul, vous promener toute une soirée sur le mauvais côté du trottoir pour un peu plus de 3 marks. Il est défendu dans les villes allemandes de se promener en groupe après la tombée du jour. Je ne sais pas exactement de combien d'unités se compose un groupe, et quelques fonctionnaires que j'ai interviewés à ce sujet, aucun ne s'est senti suffisamment compétent pour en fixer le nombre exact. Je soumis un soir la question à un ami allemand qui se préparait à aller au théâtre accompagné de sa femme, de sa belle-mère, de ses 5 enfants, de sa sœur avec fiancée et de 2 nièces. Je lui demandais s'il ne craignait pas de s'exposer aux rigueurs de cette loi. Cette question ne lui parut nullement une plaisanterie. Il jeta un coup d'œil sur le groupe. « Oh, je ne crois pas, dit-il, nous faisons tous partie d'une même famille. » L'article ne fait pas de distinction entre un groupe familial et un groupe non familial. Il se contente de dire « groupe ». Sans vouloir vous froisser, mais en considérant l'étymologie du mot, je tends personnellement à considérer votre assemblée comme un groupe. Toute la question est de savoir si la police verra les choses sous le même jour que moi. Je tenais seulement à vous avertir. Mon ami avait tendance à passer outre, mais sa femme, préférant ne pas risquer de voir sa soirée interrompue dès le début par la police, fit diviser le groupe en 2 parties qui se retrouveraient dans le vestibule du théâtre. Une autre passion qu'il faut savoir réfréner en Allemagne est celle qui consiste à jeter des objets par la fenêtre. Même les chats ne sont pas une excuse. Pendant la première semaine de mon séjour en Allemagne, j'étais constamment réveillé la nuit par des chats. Oh, une nuit, je devins enragé. Je formais un petit arsenal, 2 ou 3 morceaux de charbon, quelques poires dures, une paire de bouts de chandelle, un œuf resté sur la table de la cuisine, une bouteille de soda vide et autres menus objets de ce genre, et ouvrant la fenêtre, je me mis à bombarder l'endroit d'où paraissait venir le bruit. Je ne crois pas avoir atteint mon but. Je n'ai jamais connu d'homme qui ait mis un projectile dans un chat, même visible, excepté peut-être par hasard, en visant autre chose. J'ai vu des tireurs de marque, des lauréats de tir, des gens enfin qui s'étaient distingués dans ce sport. Je les ai vus tirer au fusil sur un chat à une distance de 50 mètres. Ils n'arrivaient seulement pas à en toucher un poil. Je me suis souvent dit qu'au lieu de cible ou de lièvre ou de toute autre sorte de but ridicule, on devrait, pour découvrir le prince des tireurs, faire le concours sur des chats. Mais enfin, peu importe, ils s'en allèrent. Il est possible que l'œuf les ait incommodés. J'avais remarqué en le prenant qu'il ne paraissait pas frais, et je me recouchais, croyant l'incident clos. 10 minutes plus tard, on se mit à sonner violemment à la grande porte. J'essayais de faire la sourde oreille, mais on sonnait avec trop de persistance. Je mis ma robe de chambre et descendis. Un sergent de ville se trouvait devant la porte. Tous les objets que j'avais jetés par la fenêtre, il les avait devant lui, réunis en un petit tas, tous, excepté l'œuf. Il avait évidemment rassemblé tout cela. Il me dit « Ces objets vous appartiennent-ils ?»« Oh, ils m'ont appartenu, mais je n'y tiens plus. N'importe qui peut les prendre, vous pouvez les prendre. » Il fit semblant de ne pas entendre ma proposition et déclara « Vous savez jeter ces objets par la fenêtre ?»« C'est exact. »« Et pourquoi les avez-vous jetés par la fenêtre » demanda-t-il. Le sergent de ville germanique trouve ces questions toutes préparées à l'avance dans son code. Il ne les modifie jamais et jamais il n'en omettra aucune. « Je les avais jetés par la fenêtre pour atteindre les chats, » répondis-je. « Quel chat ? » demanda-t-il. Cette question est bien un sergent de ville allemand. Je répliquai, avec autant de sarcasme qu'il me fut possible, que je n'étais pas capable, à ma grande confusion, de lui dire « quel chat ?» J'expliquai qu'ils étaient des inconnus pour moi, personnellement. Mais je lui offris, à la condition que la police réunit tous les chats du voisinage, de me rendre auprès d'eux et de voir si je pourrais les reconnaître, d'après le miaulement. Le sergent de ville allemand ne comprend pas la plaisanterie, ce qui vaut mieux, car l'amende prévue pour plaisanterie envers n'importe quel uniforme allemand est élevée. Ils appellent cela « traiter un fonctionnaire avec insolence ». Il me répondit simplement que ce n'était pas l'office de la police de m'aider à reconnaître des chats, son rôle se bornant à m'infliger une amende pour avoir jeté des objets par la fenêtre. Je lui demandais ce qu'un simple mortel était admis à faire en Allemagne lorsqu'il était réveillé chaque nuit par des chats. Et il m'expliqua que je pouvais déposer une plainte contre le propriétaire du chat. La police lui infligerait alors une amende et, si besoin était, ordonnerait la destruction du dit chat. Il ne daigna pas s'apesantir sur la question de savoir qui abattrait le chat et comment le chat se comporterait pendant le procès. Alors je lui demandai quel procédé il me conseillait d'employer pour découvrir le propriétaire du chat. Il réfléchit quelques minutes, puis me répondit que je pouvais filer celui-ci jusque chez celui-là. Oh, je ne me sentis plus le courage de discuter. Je n'aurais pu dire que des choses qui auraient forcément aggravé mon cas. En résumé, le sport de cette nuit m'est revenu à 12 marks et aucun des 4 fonctionnaires allemands qui m'interrogèrent à ce sujet ne put découvrir le ridicule qui se dégageait de cette aventure. Mais en Allemagne, la plus grande partie des fautes et des folies humaines semble insignifiante à côté de l'énormité que l'on commet en marchant sur les gazons. Vous ne devez en Allemagne, sous aucun prétexte, dans aucune circonstance et nulle part, vous promener jamais sur une pelouse. L'herbe en Allemagne est absolument considérée comme tabou. Poser un pied sur un gazon allemand est aussi sacrilège que de danser la gigue sur le tapis de prière d'un mahométan. Les chiens eux-mêmes respectent l'herbe allemande. Pas un chien allemand n'y poserait une patte, même en songe. Si vous voyez un chien gambader en Allemagne sur une pelouse, vous pouvez être sûr que c'est le chien d'un étranger, sans foi ni loi. En Angleterre, lorsque nous voulons empêcher les chiens de pénétrer dans certains endroits, nous dressons des filets métalliques de 6 pieds de haut, soutenus par des pieux et défendus au sommet par des fils de fer barbelés. En Allemagne, on se contente de mettre une pancarte au beau milieu, accès interdit aux chiens. Le chien qui a du sang allemand dans les veines regarde la pancarte et fait demi-tour. J'ai vu, dans un parc allemand, un jardinier pénétrer précautionneusement avec des chaussons de feutre sur une pelouse, y prendre un insecte pour le déposer avec gravité mais fermeté sur le gravier. Ceci fait, il resta à observer avec sérieux l'insecte pour l'empêcher, si besoin était, de retourner sur l'herbe. Et l'insecte, visiblement honteux, prit hâtivement le caniveau en suivant la route marquée sortie. On a assigné dans les parcs allemands des artères différentes aux différentes catégories d'humains. Et une personne, au risque de sa liberté et de sa fortune, n'a pas le droit de se promener sur la route réservée aux autres. On y trouve certaines allées destinées aux cyclistes, d'autres aux piétons, des allées cavalières, des routes pour voitures suspendues et d'autres pour voitures non suspendues, des chemins pour enfants et d'autres pour dames seules. Ils m'ont semblé avoir mis le chemin pour hommes chauves ou pour femmes légères. Un jour, je croisais dans le Grosse Garten de Dresde une vieille dame qui se tenait désemparée et ahurie au centre d'un carrefour de 7 chemins. Chacun était gardé par un écriteau menaçant qui en écartait tous les promeneurs, sauf ceux desquels il avait été spécialement tracé. Je vous demande pardon, me demanda-t-elle, devinant que je parlais l'anglais et savais lire l'allemand, mais cela ne vous dérangerait-il pas de me dire ce que je suis et par où je dois passer? Je l'examinais avec attention. J'arrivais à la conclusion qu'elle était une grande personne et un piéton, et du doigt je lui désignais son chemin. Elle le regarda et prit une mine désappointée. « Mais je ne veux pas aller dans cette direction, » dit-elle. « Ne puis-je pas prendre cet autre chemin ?»« Ah, grand Dieu, non, madame, » répliquai-je. « Ce passage est réservé aux enfants. » « Mais je ne leur ferai aucun mal, » dit la vieille dame avec un sourire. Elle ne semblait pas être une de ces vieilles dames capables de faire du mal aux enfants. « Madame, » répondis-je, « si cela dépendait de moi, j'aurais confiance et vous laisserais prendre ce chemin, même si mon dernier-né jouait à l'autre bout, mais je ne puis que vous mettre au fait des règlements de ce pays. Pour vous, créature adulte, vous aventurez dans cette allée, ce serait marcher au-devant d'une amende certaine, sinon de l'emprisonnement. Voici votre itinéraire en toutes lettres. Nur für fürs Gungenger, et si vous acceptez un conseil, suivez ce chemin à grands pas. Il ne vous est permis ni de stationner ni d'hésiter. « Mais il ne prend pas du tout la direction où je voudrais aller, » dit la vieille dame. « Mais il prend celle où vous devriez vouloir aller, » répondis-je. Et nous nous séparâmes. Dans les parcs, il existe des sièges spéciaux munis d'inscriptions. « Pour grandes personnes seulement. »« Nur für Erwachsene. » Et le garçon naît allemand, désireux de s'asseoir et lisant cette pancarte, poursuit son chemin et cherche un banc où les enfants aient le droit de se reposer. Et là, il s'assied en prenant garde de le salir avec ses bottines boueuses. Supposez un instant un banc dans Regent Street ou dans Sir James Park, portant l'inscription « Seulement pour grandes personnes ». Un courant de 5 lieues à la ronde, les enfants essaieraient de trouver place sur ce banc, fût-ce par expulsion des autres enfants qui y seraient déjà installés. Quant aux grandes personnes, elles ne pourraient jamais en approcher à moins d'un demi-mille rapport à la foule. Le garçonnet allemand, qui par erreur se serait assis sur un banc de cette sorte, se lève avec effroi lorsqu'on lui fait remarquer son erreur, et avec honte et regret, il s'en va la tête basse en rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Il ne faut pas croire que le gouvernement ne soit pas paternel. Il n'oublie pas l'enfant. Dans le parc allemand et dans les jardins publics, on a réservé pour lui des emplacements spéciaux, Spielplätze, chacun d'eux pourvu d'un tas de sable. Il peut y jouer à cœur joie en faisant des pâtés et en construisant des châteaux de sable. Un pâté fait avec un autre sable semblerait un pâté immoral à l'enfant allemand. Il ne lui donnerait aucune satisfaction. Son âme se révolterait contre lui. Il se dirait « Oh, ce pâté n'était pas comme il aurait dû être, fait du sable que le gouvernement a spécialement mis à notre disposition pour cet usage. Il n'a pas été fait à l'endroit que le gouvernement avait choisi et aménagé pour la construction de pâtés de sable. Rien de bon ne peut en résulter. C'est un pâté hors toute loi. » Et sa conscience continuerait à le tourmenter jusqu'à ce que son père eût payé l'amende prévue et lui eût infligé une correction en rapport avec son méfait. Une autre manière de s'amuser en Allemagne consiste à se promener en poussant une voiture d'enfant. Des pages entières du code allemand sont remplies d'articles qui traitent de ce que l'on peut faire et de ce que l'on n'a pas le droit de faire avec un Kinderwagen, comme on l'appelle. L'homme qui peut pousser sans anicroche une voiture d'enfant à travers une ville allemande est né diplomate. Il ne vous faut pas flâner avec une voiture d'enfant, mais il ne faut pas non plus aller trop vite. Il ne vous faut pas, avec une voiture d'enfant, barrer la route aux autres personnes. Mais si les autres personnes vous barrent la route, il vous faut leur céder la place. Si vous voulez vous arrêter avec une voiture d'enfant, il faut vous rendre à une place spécialement aménagée où les voitures d'enfants ont licence de s'arrêter. Et quand vous y arrivez, il faut vous arrêter. Il ne faut pas traverser la rue avec une voiture d'enfant. Si le bébé et vous habitez par hasard de l'autre côté, c'est votre faute. Il est défendu d'abandonner la voiture d'enfant où que ce soit, et il ne vous est permis de l'emmener que dans certains lieux. Il est à supposer que si vous vous promeniez en Allemagne avec une voiture d'enfant pendant 1 heure et demie, vous créeriez suffisamment d'ennuis pour être obligé d'y séjourner un mois. Tout jeune Anglais, désireux d'avoir des démêlés avec la police, ne saurait mieux faire que d'aller en Allemagne et d'emmener avec lui sa voiture d'enfant. En Allemagne, il est défendu de laisser la porte d'entrée d'une maison ouverte après 10 heures du soir, et il vous est interdit de jouer du piano dans votre propre demeure après 11 heures. En Angleterre, je n'ai jamais éprouvé le désir de jouer du piano ou d'entendre une personne quelconque en jouer après 11 heures du soir. Le fait est que tout change si l'on vous défend de jouer. Ici en Allemagne, le piano n'a eu d'attrait pour moi qu'après 11 heures, et à partir de ce moment, je deviens capable de m'asseoir pour écouter avec plaisir la prière d'une vierge ou l'ouverture de Zampa. D'autre part, pour l'allemand respectueux du code, la musique jouée après 11 heures du soir cesse d'être de la musique. Elle devient du péché, et à ce titre, ne lui donne pas de satisfaction. Dans toute l'Allemagne, le seul individu qui songe à prendre des libertés avec la loi est l'étudiant. Et encore, ne le fait-il que jusqu'à un certain point bien défini. La coutume lui octroie des privilèges, mais bien spécifiés et strictement limités. Par exemple, l'étudiant a le droit de s'enivrer, de s'endormir dans le ruisseau, sans encourir d'autres punitions que l'obligation de donner le lendemain matin une légère gratification au sergent de ville qu'il a ramassé et rapporté chez lui. Mais pour cet usage, il lui faut choisir les ruisseaux de rues écartées. L'étudiant allemand, qui sent approcher rapidement la minute où il perdra le discernement des choses, emploie les derniers ressorts de son énergie à contourner le coin de rue passé lequel il pourra s'affaler sans anxiété. Dans certains quartiers, il a le droit de sonner aux portes, quartiers où les appartements sont d'un loyer moins élevé qu'ailleurs. Chaque famille tourne du reste à difficulté en établissant entre ses membres un code secret de sonnerie grâce auquel on peut savoir si l'appel est digne de foi ou ne l'est pas. On fait bien d'être au courant de ce code si l'on visite ce genre de maison tard dans la soirée, car en persistant à sonner, on risque de recevoir un baquet d'eau sur la tête. L'étudiant allemand jouit aussi du privilège de pouvoir éteindre la nuit les becs de gaz, mais on ne le voit pas d'un bon œil en éteindre un trop grand nombre. L'étudiant amateur de farce tient une comptabilité. Il se contente d'une demi-douzaine de becs par nuit. Il a, par cela, le droit de crier et de chanter dans la rue en rentrant chez lui, et cela jusqu'à 2h30 exclusivement. Dans certains restaurants, on lui permet de passer son bras autour de la taille de la Fräulein. Pour empêcher toute velléité de libertinage, les servantes des restaurants fréquentés par les étudiants sont toujours soigneusement choisies parmi des femmes mûres et calmes, grâce à quoi l'étudiant allemand peut jouir des délices du flirt sans peur et sans reproche. Ils respectent tous la loi, les citoyens allemands. Chapitre 10. À Bade, nous commençâmes à faire sérieusement de la bicyclette. Il suffit d'un mot pour décrire Bade, ville de plaisir tout à fait semblable aux autres villes de plaisir. Nous combinâmes une excursion de 10 jours pour achever notre tour de forêt noire avec pointe dans la vallée du Danube. C'est une des plus belles vallées de l'Allemagne au long des 20 kilomètres qui séparent Tuttlingen de Sigmaringen. Le Danube s'y fraye un passage étroit longeant des villages vieillots où se sont conservées les mœurs du bon vieux temps. Il côtoie des monastères anciens perdus dans des nids de verdure. Il traverse des prairies peuplées de troupeaux dont les bergers, nu-pieds et nu-têtes, ont fait les hanches serrées étroitement par une corde et tiennent une houlette à la main. Le fleuve passe ensuite au milieu de forêts rocheuses, entre des murs de rocs abrupts, dont chaque pointe est couronnée d'une forteresse en ruine, d'une église ou d'un château. On y jouit en même temps d'une vue sur les montagnes des Vosges, où la moitié de la population se froisse si vous lui adressez la parole en français, tandis que l'autre se considère comme insulté si vous lui parlez en allemand. Mais les deux manifestent une même indignation et un égal mépris à l'audition du premier mot d'anglais, situation qui rend la conversation quelque peu énervante et fatigante. Nous n'avons pu suivre notre programme à la lettre par la raison que les humains, même animés des meilleures intentions, ne parviennent pas toujours à mener à bonne fin leurs projets. Il est facile de dire à 3 heures de l'après-midi avec conviction « Nous nous lèverons à 5 heures, nous ferons un léger déjeuner à la nuit et partirons à 6 heures. Nous aurons ainsi fait la plus grande partie de notre chemin avant la grande chaleur », remarque quelqu'un. « Oh, cette saison, dit un autre, les premières heures du matin sont assurément les meilleures de la journée. »« Oh, n'est-ce pas votre avis ?» ajoute un troisième, et indubitablement. « Il fera si frais, si agréable. »« Ah, et les demi-teintes sont si exquises. » Le premier matin, on met ses projets à exécution. Les excursionnistes se rassemblent à 5h30. On est très silencieux. Chacun pris à part est quelque peu grognon. On est tenté de trouver la nourriture mauvaise et beaucoup d'autres choses avec. L'atmosphère est chargée d'une irritabilité contenue qui cherche une issue. Dans le cours de la soirée, la voix du tentateur se fait entendre. « Oh, je pense que si nous nous mettions en route à 6 h 30 précises, cela suffirait. » La voix de la vertu proteste faiblement. « Oh, mais cela bouleversera nos intentions. » Le tentateur réplique. « Ben, les intentions furent créées pour les hommes et non les hommes pour les intentions. » Le diable sait paraphraser l'écriture dans son propre intérêt. D'ailleurs, cela dérange tout l'hôtel, songez donc aux malheureux domestiques. La voix de la vertu continue en faiblissant, mais par ici, tout le monde se lève de bonne heure. Ah, ils ne se lèveraient pas si tous les pauvres, s'ils n'y étaient obligés. Mettons donc le déjeuner à 6 h 30 précise. Cela ne dérangera personne. Ainsi, le péché se dissimule sous les traits de la bonté, et on dort jusqu'à 6 h, expliquant à sa conscience, qui d'ailleurs ne vous croit pas, qu'on agit ainsi que par altruisme. J'ai vu des considérations de ce genre prolonger le repos jusqu'à 7 h sonnées. Semblablement, les distances mesurées au compas ne sont pas les mêmes que mesurées avec les jambes. 10 000 à l'heure pendant 7 h font 70 000. Ce n'est pas trop de fatigue pour une journée. Ah ben, n'y a-t-il pas quelque chose des côtes très raides à gravir? Oh, on les descend ensuite. Bon, mettons 8 000 à l'heure et convenons de ne faire que 60 000. Dieu du ciel, si nous ne pouvons pas faire du 8 à l'heure, il vaudrait mieux nous faire traîner dans une voiture de malade. Il semble en effet impossible de faire moins sur le papier. Mais à 4 h de l'après-midi, la voix du devoir sonne moins haut. Eh bien, il me semble que le plus gros est fait. Oh, il y a une presse, ne nous hâtons pas. Vue ravissante, n'est-ce pas? Oh, ravissante, n'oubliez pas que nous sommes à 25 000 de Saint-Blasien. Vous dites? Oui, 25 000, sinon un peu plus. Ah, vous voulez dire que nous n'en avons fait que 35? Oh, à peine. C'est impossible, je n'en crois pas votre carte. Ça ne se peut pas, voyons, nous pédalons consciencieusement depuis les premières heures du jour. Ah non, nous ne sommes pas partis avant 8 h. Ah, 8 h moins un quart. Bien, mettons 8 h moins un quart. Et tous les 6 000, nous sommes arrêtés. Nous ne nous sommes arrêtés que pour regarder le site. Il est inutile de parcourir une région si on ne prend pas le temps de l'admirer. Et il nous a fallu grimper quelques côtes très raides. Et il fait exceptionnellement chaud aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas que nous sommes à 25 000 de Saint-Blasien. C'est un fait. Encore des montagnes, hein? Oui, deux, ça monte et puis ça descend. Je croyais que vous aviez dit que la route descendait jusque dans Saint-Blasien. Ah, c'est vrai pour les 10 derniers 1 000, mais nous sommes encore à 25 000 de Saint-Blasien. Est-ce qu'il y a rien entre ici et Saint-Blasien? Qu'est-ce donc que ce petit endroit au bord de ce lac? Ah, ce n'est pas Saint-Blasien, ni rien qui en soit proche. Il y a du danger à entrer dans cet ordre d'idées. Il y en a surtout à nous surmener. On devrait en toutes circonstances s'appliquer à agir avec modération. Joli petit pays que Titizé, d'après la carte. On doit y respirer un air pur. Très bien, bon, je suis conciliant. C'est vous autres qui vouliez pousser jusqu'à Saint-Blasien. « Oh, je ne tiens pas tant que ça à Saint-Blasien. C'est dans le fond d'une vallée, on y étouffe. Titizi est beaucoup mieux situé. Et assez près, n'est-ce pas? 5 miles. Alors, tous en chœur, on s'arrête à Titizi. » Georges avait dissocié la théorie et la pratique dès notre premier jour d'excursion. Je croyais, dit-il, il était sur sa bicyclette, tandis que Alice et moi, sur le tandem, menions le train. Je croyais qu'il avait été entendu que nous gravirions les côtes en funiculaire et les descendrions sur nos machines. Oh, d'une manière générale, mais les funiculaires ne gravissent pas toutes les côtes dans la forêt noire, spécifia Harris. M'en était bien un peu douté, grogna George. Et le silence régna quelque temps. D'un autre côté, dit Harris, qui avait apparemment ruminé ce sujet, il est impossible que vous ayez espéré n'avoir que des descentes. Ce ne serait pas de jeu. Sans un peu de travail, il n'est pas de plaisir. Du silence encore. Georges le rompit. Oh, ne vous surprenez pas pour le seul plaisir de m'être agréable, vous deux. Que voulez-vous dire? Demanda Harris. Ben, je veux dire qu'aux endroits où d'aventure nous pourrions prendre le funiculaire, il ne nous faudrait pas craindre de blesser ma susceptibilité. Pour mon compte, je me déclare prêt à gravir toutes ces montagnes dans des funiculaires, même si ce n'est pas le jeu. Je me charge de me mettre en règle avec ma conscience. Voici 8 jours que je me lève à 7 heures du matin, et je trouve que cela vaut une compensation. Ne vous gênez donc pas pour moi à ce sujet. Nous promîmes de ne pas oublier son vœu, et l'excursion continua dans un mutisme absolu, jusqu'au moment où Georges nous en fit sortir de nouveau par cette question. « De quelle marque m'avez-vous dit qu'était cette votre machine ?» Harris lui dit. « Je ne me rappelle pas de quelle marque elle était, enfin peu importe. »« En êtes-vous sûr ?» insista Georges. « Naturellement, j'en suis sûr. Pourquoi ?» « Eh bien, ne fait pas honneur à son affiche, c'est tout. »« Quelle affiche ?»« L'affiche qui a pour but de prôner cette marque de cycle. »« J'en ai regardé une peu de jours avant notre départ, qui était placardée sur un mur de Sloane Street. »« Un jeune homme montait une machine de cette marque, un jeune homme, une bannière à la main. »« Il ne faisait aucun effort, c'était aussi clair que le jour. » Il était simplement assis dessus, à aspirer largement le grand air. Le cycle avançait par sa propre initiative et avançait d'un bon train. Votre bicyclette me laisse à moi tout le travail. Votre machine est un monstre de paresse. Si on ne suait pas sang et eau, ce n'est pas elle qui bougerait. À votre place, j'irai réclamer. En y réfléchissant, il y a bien peu de machines qui fassent honneur à leur réclame. Je ne me souviens que d'une seule affiche où le cycliste apparemment peinait. Mais c'est qu'il était poursuivi par un taureau. Le plus souvent, l'intention de l'artiste est de prouver aux néophytes hésitants que le sport de la bicyclette consiste à être assis sur la selle luxueuse et à être transporté rapidement par des forces invisibles et surnaturelles dans la direction où l'on désire aller. D'une manière générale, le cycliste est une dame, une fée voyageant sur une légère nuée estivale ne peut pas paraître plus à son aise que la bicyclette de l'affiche. Elle porte le costume rêvé pour faire de la bicyclette par de fortes chaleurs. Des patronnes d'auberges un peu bégueules lui refuseraient peut-être l'accès de leur salle à manger, et une police à l'esprit étroit pourrait vouloir la protéger en l'enveloppant dans un châle avant de l'incriminer. Mais elle ne s'occupe pas de ces détails. Par mont et par vaux, en des passages où un chat aurait du mal à trouver son chemin, sur des routes faites pour briser un rouleau compresseur, elle passe comme une vision de beauté nonchalante, ses cheveux blonds ondulant au vent, son corps de sylphide alangui dans une attitude éthérée, un pied sur la selle et l'autre effleurant la lanterne. Parfois, elle consent à s'asseoir sur la selle. En ce cas, elle place ses pieds sur les leviers de repos, allume une cigarette et brandit un lampion. Quelquefois, mais plus rarement, ce n'est qu'un mâle qui conduit la bicyclette. Acrobate moins accompli que la demoiselle, il réussit pourtant des tours de force appréciables. Se tenir debout sur la selle en agitant des drapeaux, boire de la bière ou du bouillon en pleine marche. Il faut bien qu'il fasse quelque chose pour occuper ses loisirs. Ce doit être fort pénible pour un homme d'un tempérament actif de rester tranquillement assis sur sa machine des heures durant sans rien avoir à faire, sans même avoir à réfléchir. Et c'est pourquoi on le voit se dresser sur ses pédales en arrivant près du sommet d'une haute montagne pour apostropher le soleil ou pour déclamer des vers à la campagne environnante. Parfois, l'affiche représente un couple de cyclistes, et alors on saisit sur le vif toutes les supériorités qu'a, au point de vue du flirt, la bicyclette moderne sur le salon ou sur la grille du jardin du bon vieux temps. Lui et elle grimpent sur leur bicyclette, après s'être naturellement assurés qu'elles sont de bonne marque. Après quoi, ils n'ont plus rien à faire qu'à se répéter l'éternelle chanson d'amour, toujours si douce. Gaiement, les roues de la Benmont's Company's Bottom Bracket Britain's Best ou de la Camberwell Company Joint Les Eureka roulent le long des trois sentiers à travers les villes qui sont des ruches au travail. On n'a besoin ni de pédaler ni de les conduire. Donnez-leur une direction et dites-leur à quelle heure vous voulez être rentrés. C'est tout ce qu'il faut pour agir. Pendant qu'Enwin se penche sur sa selle pour murmurer à l'oreille d'Angelina les mille petits riens si doux, pendant que le visage d'Angelina se tourne vers l'horizon décoratif pour cacher sa chaste rougeur, les bicyclettes magiques poursuivent leur course régulière. Et le soleil brille toujours, et toujours les routes sont sèches. Ils ne sont ni suivis par des parents sévères, ni accompagnés d'une tante encombrante, ni épiés au coin des rues par un démon de petit frère. Jamais ils ne rencontrent d'obstacle à leur bonheur. Ah, mon Dieu, pourquoi n'avons-nous pas pu louer des Britain's Best ou des Camberwell Eureka quand nous étions jeunes? Il se peut aussi que la Britain's Best ou la Camberwell Eureka soit appuyée contre une grille. Elle est peut-être fatiguée. Elle a eu beaucoup à travailler cet après-midi pour transporter ces jeunes gens. Animés des meilleures intentions, ils ont mis pied à terre pour donner du repos à la machine. Ils sont assis sur l'herbe, ombragés par de jolis arbustes. L'herbe est longue et bien sèche. Un ruisseau coule à leurs pieds. Tout respire la paix et la tranquillité. L'artiste, compositeur d'affiches pour cycles, s'ingénie toujours à donner cette impression élyséenne de paix et de tranquillité. Mais, au fait, j'ai tort d'affirmer que d'après les affiches, jamais cycliste ne peine. J'en ai vu qui représentaient des hommes à bicyclette travaillant dur ou même se surmenant. Ils paraissent amaigris et hagards. À force de travail, la sueur perle sur leur front. Ils vous donnent l'impression que s'il y a une autre montagne au-delà de l'affiche, il leur faudra ou abandonner ou mourir. Mais c'est le résultat de leur propre folie et cela ne leur arrive que parce qu'ils s'obstinent à monter une machine d'une marque inférieure. Ah ! S'ils montaient une Pitney Popular ou une Battersea Bounder, ah, comme le jeune homme raisonnable qui occupe le centre de l'affiche, ils n'auraient aucun besoin de se dépenser en efforts inutiles. On ne leur demanderait en témoignage de reconnaissance que d'avoir l'air heureux. Tout au plus de freiner un peu, parfois lorsqu'il arrive à la machine dans sa juvénile fougue, de perdre la tête et de prendre une allure par trop précipitée. Vous, pauvres jeunes hommes si las, assis misérablement sur une borne kilométrique, trop éreinté pour prendre garde à la pluie persistante qui vous traverse. Vous, jeune fille harassée, aux cheveux raides et mouillés, que leur tardive énerve, qu'il en seriez un juron si vous saviez vous y prendre. Vous, homme chauve et corpulent, qui maigrissez à vue d'œil en vous éreintant sur la route sans fin. Vous, matrones pourpres et découragées, qui avez tant de mal à mépriser la roue récalcitrante. Vous tous, pourquoi n'avez-vous pas eu soin d'acheter une Britain's Best ou une Camberwell Rica? Pourquoi ces bicyclettes de marques inférieures sont-elles si répandues? Ou bien en est-il du cyclisme comme de toute chose en ce bas monde? La vie réalise-t-elle jamais la promesse de l'affiche? En Allemagne, ce qui ne manque jamais de me fasciner, c'est le chien autochtone. On se lasse en Angleterre des vieilles races, on les connaît trop. Il y a le dog, le plum pudding dog, le terrier, aux poils noirs, blancs ou roux, selon le cas, mais toujours querelleur. Le collie, le bulldog, et jamais rien de nouveau. Mais en Allemagne, vous rencontrez de la variété. Vous y apercevez des chiens comme vous n'en avez jamais vu jusque-là, que vous ne prendriez pas pour des chiens s'ils ne se mettaient à aboyer. Tout cela est si neuf, si captivant. Georges s'arrêta devant un chien à Sigmaringen et attira notre attention sur lui. Il nous sembla le produit hétérogène d'une morue et d'un caniche, et ma foi, je n'oserais pas affirmer qu'il n'était pas en effet issu du croisement d'une morue et d'un caniche. Harris essaya de le photographier, mais le chien se hissa le long d'une palissade et disparut dans quelques haies. J'ignore les intentions de l'éleveur allemand, il les cache pour le moment. Georges prétend qu'il vise à produire un griffon. On est tenté de défendre cette théorie. J'ai observé un ou deux cas de quasi-réussite en ce genre. Mais cependant, je ne peux pas m'empêcher de croire que ce ne furent que de simples accidents. L'allemand est pratique, quel intérêt aurait-il à réaliser un griffon? Si on n'est poussé que par le désir d'avoir une bête originale, n'a-t-on pas déjà le basset? Que vaut-il de plus? Au surplus, le griffon serait très incommode dans une maison. Chacun, à chaque instant, lui marcherait sur la queue. À mon idée, les Allemands tentent de produire une sirène qu'ils dresseraient à la pêche. Car nos Allemands n'encouragent jamais la paresse chez aucun être vivant. Ils aiment voir leurs chiens travailler, et le chien allemand aime le travail. Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. La vie du chien anglais doit lui peser comme un fardeau. Imaginez un être fort, intelligent et actif, d'un tempérament exceptionnellement énergique, condamné à passer 24 heures par jour dans une ineptie absolue. Aimeriez-vous cela pour vous-même? Rien d'étonnant qu'il se sente incompris, qu'il aspire à l'impossible et ne récolte que des boires. Le chien allemand, au contraire, a de quoi occuper son esprit. Il se sait important et très utile. Observez-le qui s'avance, l'air heureux, attelé à sa voiturette chargée de lait. Nul marguillier ne semble aussi satisfait de lui-même au moment de la quête. Il ne fournit aucun travail véritable. C'est l'humain qui pousse et lui qui aboie. C'est ainsi qu'il conçoit la division du travail. Voici ce qu'il se dit. Le vieux bonhomme ne peut pas aboyer, mais c'est poussé. C'est parfait. La fierté qu'il tire de ce travail est édifiante. Il se peut qu'un autre chien, le croisant, fasse une remarque désobligeante, jette du discrédit sur la teneur en crème de son lait. Alors il s'arrête subitement, sans tenir aucun compte de la circulation. « Je vous demande pardon, mais que disiez-vous de notre lait ?»« Oh, j'ai rien dit de votre lait, répond l'autre chien, sur le ton de la plus parfaite innocence. J'avais simplement dit qu'il fait beau temps et demandé le prix de la craie. Ah, vous avez demandé le prix de la craie, hein? Désireriez-vous le savoir? Oh, je vous en prie, je m'imagine que vous êtes à même de me le dire. Vous avez raison, je le peux, cela vaut. Allons, marche, dit la vieille qui a chaud, qui est lasse et voudrait avoir fini sa tournée. Oui, mais non, un petit bonhomme, avez-vous entendu ce qu'il a dit de notre lait? T'occupe pas donc pas de lui, allez. Voilà un tramway qui vient de tourner la rue, nous allons être écrasés. Possible, mais moi je m'occupe de lui. On a son amour propre. Il a demandé le prix de la craie, il va le savoir. Ça vaut exactement 20 fois plus. Ah, vous allez tout renverser, s'écrie la vieille femme angoissée, le retenant de toutes ses faibles forces. Mon Dieu, j'aurais dû le laisser chez nous. Le tram s'avance rapidement sur eux, un cocher les invective, un autre chien énorme, attelé à une voiturette de pain, espérant arriver à temps pour prendre part au combat, se hâte de traverser la rue, suivi d'un enfant qui crie de toutes ses forces. Il se forme vite à un petit rassemblement, et un représentant de la force publique se fraye un chemin vers le champ de bataille. Cela vaut, reprend le chien de la laitière, exactement 20 fois plus que vous n'allez valoir quand j'en aurai fini avec vous. Ah, tu crois ça vraiment? Oui, vraiment, petit-fils de caniche français, mangeur de choux. Là, je savais que vous alliez la renverser, dit la pauvre laitière. Je lui avais dit qu'il allait la renverser. Mais il est occupé, ne l'écoute pas. 5 minutes plus tard, quand la circulation a repris, quand la porteuse de pain a ramassé ses miches boueuses et que le sergent de ville s'est retiré après avoir noté le nom et l'adresse de toutes les personnes présentes, il consent à jeter un regard derrière lui. « Évidemment, on l'a renversé un peu, admet-il. » Puis se secouant pour chasser cet ennui, il ajoute gaiement. « Mais je pense lui avoir appris le prix de la craie, celui-là. Je crois qu'il reviendra plus nous ennuyer. » Je l'espère bien sûr, dit la vieille femme en regardant avec regret la Voie lactée. Mais son sport préféré consiste à attendre au sommet d'une colline la venue d'un autre chien et alors de la redescendre au grand trot. En cette occasion-là, son maître est surtout occupé à courir derrière lui pour ramasser au fur et à mesure les objets semés, des pains, des choux, des chemises. Arrivé au bas de la colline, lui s'arrête et attend amicalement son maître. « Excellente course, n'est-ce pas ?» remarque-t-il essoufflé, quand l'homme arrive chargé jusqu'au menton. « Je crois que je l'aurais gagné si cet idiot de petit garçon n'était pas intervenu. Il s'est mis juste en travers de mon chemin, au moment où je tournais le coin. Vous l'aviez remarqué ?»« Je voudrais pouvoir en dire autant, sale gosse. Pourquoi se met-il à brailler de la sorte ?»« Parce que je l'ai renversé, que j'ai passé sur lui. Eh bien... pourquoi ne s'est-il pas écarté de mon chemin? C'est une honte que les gens permettent à leurs enfants de courir ainsi et de se jeter dans les jambes de tout le monde pour faire choir les gens. Oh là là, mais toutes ces choses sont tombées de la voiture. Ah, vous n'aviez sûrement pas bien chargé, il faudra y mettre plus de soin une autre fois. Vous ne pouviez pas vous attendre à ce que je descendisse la colline à une allure de 20 000 à l'heure? Vous me connaissez pourtant assez pour pas croire que je me laisserai dépasser par ce vieux chien des Schneider sans tenter un effort. Mais vous réfléchissez jamais. Vous êtes certain d'avoir retrouvé tout? Vous le croyez? Oh, je ne me contenterai pas de croire à votre place. Je remonterai vivement la colline et je m'en assurerai. Vous êtes trop fatigué? Oh, cela va bien. Mais ne dites pas alors que c'est ma faute si vous manque quelque chose. Il est très entêté. Il est sûr et certain que le bon tournant est le second à votre droite et rien ne pourra le persuader que ce n'est que le troisième. Il est sûr de pouvoir traverser la route suffisamment vite et ne sera convaincu du contraire que lorsqu'il aura vu sa charrette démolie. Il est vrai qu'alors il s'excusera très humblement. Mais à quoi cela servira-t-il? Cela réparera-t-il le mal? Comme il a l'habitude, la taille et la force d'un jeune taureau et que son compagnon humain n'est généralement qu'un faible vieillard ou un petit enfant, il n'en fait qu'à sa guise. La plus grande punition que son propriétaire puisse lui infliger, c'est de le laisser à la maison et de traîner lui-même sa voiture. Mais notre Allemand a trop bon cœur pour abuser de ce procédé. Il ne faut pas croire que l'animal soit attelé à la voiture pour un autre agrément que le sien, et j'ai la certitude que le paysan allemand ne commande le petit harnachement et ne fabrique la petite voiture que pour faire plaisir à son chien. Dans d'autres pays, en Hollande, en Belgique et en France, j'ai vu maltraiter et surmener les chiens qu'on attelle. En Allemagne, jamais. Les Allemands accablent de sottises leurs animaux d'une manière choquante. J'ai vu un Allemand se tenir devant son cheval et le traiter de tous les noms qui lui venaient à l'esprit. Mais le cheval n'en avait cure. J'ai vu un Allemand, là d'injurier son cheval, appeler sa femme et lui demander de l'aider. Quand elle survint, il lui révéla ce que le cheval avait fait. À ce récit, la femme se fâcha, elle aussi tout rouge, et se tenant l'un à droite, l'autre à gauche du pauvre animal, tous deux le rouèrent d'invectives, ils lui firent des remarques blessantes sur son aspect physique, son intelligence, son sens moral, son adresse en tant que cheval. L'animal subit l'avalanche pendant quelque temps avec une patience exemplaire. Puis il trouva la meilleure solution en l'occurrence. Sans perdre son sang-froid, il s'en alla doucement. La femme s'en retourna à sa lessive. Quant au mari, il le suivit remontant la rue, la bouche pleine d'injures. Il n'y a pas sur terre de peuple dont le cœur soit aussi tendre. Les Allemands ne maltraitent pas les enfants ni les animaux. Ils n'utilisent le fouet que comme instrument de musique. On entend son claquement du matin au soir. À Dresde, je vis la foule lyncher presque un cocher italien qui s'était servi du fouet contre sa bête. L'Allemagne est le seul pays d'Europe où le voyageur puisse s'installer confortablement dans un fiacre avec la certitude que son laborieuse et patiente amie d'entre les brancards ne sera ni surmené, ni maltraité.